Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voras sur Radio IDFM avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Bienvenue sur notre antenne pour ce nouveau numéro de l'économie en direct jusqu'à 11h sur Radio IDFM ou idfm98.fr. Aujourd'hui, vendredi 5 novembre, réseau professionnel au féminin, métier de la sûreté et protection de nos enfants face à l'inceste sont les trois thèmes, tous d'actualité, que nous allons développer ensemble. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Farine. Bonjour Laetitia.
Bonjour Jacqueline.
Merci pour votre présence dans nos studios. Laetitia, vous êtes animatrice réseau pour la région Nord-Est et Île-de-France de Bouche ta boîte, un réseau business de femmes entrepreneurs pour gagner en stratégie, chiffre d'affaires et leadership. Vous nous dévoilerez la méthode, les outils et le prochain événement spécial Île-de-France de Bouche ta boîte qui doit avoir lieu dans quelques jours. À vos côtés, Jérôme Morges. Bonjour.
Bonjour Jacqueline.
Je vais bien prononcer votre
Morge,
nom.
Morge en fait.
Morge, pardon. Également, merci pour votre présence, Jérôme. Vous êtes directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications d'excellence autour des métiers de la sécurité. À l'heure où cette sécurité est devenue un enjeu de plus en plus stratégique, vous nous expliquerez la vocation et les défis de votre campus basé à Argenteuil. Et à vos côtés, Arnaud Gallet. Bonjour Arnaud.
Bonjour Jacqueline.
Merci également d'avoir accepté mon invitation. Arnaud, vous êtes anthropologue, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger, membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Un phénomène tabou à l'ampleur méconnue. Et avec vous, nous découvrirons comment est né ce collectif, ses actions et les solutions qu'il préconise pour faire face à ce fléau qui impacte la société dans son ensemble.
Tout à fait.
Vers 10h, notre expert en communication, Étienne Barrier de Unique Production, nous présentera sa chronique. Mais sans attendre, je donne la parole à Laetitia Farine. Donc Laetitia, j'avais eu le plaisir de vous recevoir déjà en juin dernier, car Bouche ta boîte accomplissait un tour de France pour fédérer les femmes chefs d'entreprise à travers les territoires. Et vous étiez venu nous présenter avec beaucoup de passion ce Tour de France qui a rencontré, je crois, un vrai succès.
Ouais, un vrai succès. On a fait 11 villes en 7 semaines. C'était assez incroyable. Et ce qu'on en a retenu, c'est qu'il y avait un vrai besoin de connecter les acteurs et actrices de l'écosystème économique local un peu partout sur les territoires, parce que ces gens-là ne se parlent pas. Je vous parle des dirigeantes de TPE que nous accompagnons à travers notre réseau Bouche ta boîte, mais également des CCI, des CMA, des agglomérations, des régions, etc., etc. Tout ce monde, en fait, ne se parle pas. Et donc, pour générer du business, il faut créer des connexions. Et c'est aussi notre rôle à Bouche ta boîte.
Et aujourd'hui, vous avez souhaité passer à l'antenne pour l'annonce d'un événement en Île-de-France. Et nous sommes très sensibles à votre confiance. Alors, je voulais rappeler que vous êtes une ancienne journaliste et que vous avez eu l'opportunité de vous reconvertir en animatrice réseau au sein de Bouche ta boîte, l'occasion pour vous de retrouver Marie Éloi, fondatrice de cette entreprise, dont vous parlez aussi avec beaucoup d'admiration.
Ouais, Marie, c'est une femme, comme tout le monde en fait. C'est une femme qui a pas eu que des paillettes dans sa vie, parce que souvent quand on raconte un peu l'histoire des entrepreneurs, il y avait une force incroyable, on croyait que tout était possible. Alors oui, elle croyait que tout était possible, mais c'était pas facile. Elle a créé d'abord une école Montessori au moment où elle s'est retrouvée quand même maman solo. Ensuite, elle a créé Femmes des Territoires, qui est devenue une association qui organise plus de 500 événements par an, qui accompagne les créatrices d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est rendue compte que elle, quand elle a monté sa boîte, elle n'avait aucun code. Et vous savez quoi, Jacqueline, c'est exactement la même chose pour la plupart des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, on a quand même 60% des entrepreneurs qui ne font pas de prévisionnel, c'est-à-dire de business plan. Ça veut dire que quand on crée sa boîte, on ne sait pas quel est le modèle économique qui pourra être viable, et donc si un jour on pourra atteindre la rentabilité. Et si on ne se pose pas cette question, c'est sûr que la rentabilité, on va avoir du mal à l'atteindre.
C'est sûr. Ouais,
c'est... Et c'est pour ça qu'on existe aussi. Le réseau, ça permet de challenger son business plan, de se fixer des ambitions. C'est important d'être ambitieuse quand on est entrepreneur. Et ces ambitions, pour les atteindre, on le fait grâce à la force du collectif. Donc nous, on a un réseau business qui s'adresse aux dirigeantes de TPE de 0 à 20 salariés, peu importe le territoire. On a aujourd'hui plus plus de 120 groupes d'entrepreneurs. C'est 1700 dirigeantes aujourd'hui qu'on fédère en France.
Bravo, bravo. Alors, rappelez-nous la méthode de Bouge ta boîte.
La méthode, elle est très simple. On se réunit toutes les deux semaines avec un groupe de dirigeantes. On peut aller jusqu'à 25 dirigeantes, d'accord ? Chaque dirigeante représente un secteur d'activité et ensemble, on va lever ses freins, lever les freins liés à l'argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, on va pouvoir avoir un prévisionnel, se fixer des objectifs, dire « j'ai besoin ». Deux, j'ai besoin de savoir mieux communiquer, j'ai besoin d'avoir une expertise comptable, j'ai besoin qu'on relise le dernier post que j'ai fait sur LinkedIn parce que je sais pas si ce que j'ai écrit c'est brillant ou pas forcément.
Ouais, ouais.
J'ai besoin qu'on me donne mon avis,
chacune
son
apporte
avis.
À l'autre.
Exactement. Et même
expertise.
Sur une nouvelle prestation, dites-vous, vous êtes entrepreneur, vous êtes chez vous, vous vous imaginez une prestation pour 2022. Allez, on se dit, on se lance avec une nouvelle prestation, un nouveau tarif, une nouvelle expérience client. Ok, comment est-ce que je peux tester ça, savoir si ça marche, si c'est logique, si tout le monde comprend exactement qu'est-ce que comprend ma prestation? Eh bien, je vais en parler à mon groupe, à un groupe de dirigeantes, et chacune va me donner son avis, me donner du feedback. Et c'est comme ça que je vais monter en compétence et que je vais développer mon entreprise.
Est-ce que je dis une grosse bêtise si Bouge ta boîte est un petit peu sur le même principe que les BNI?
Alors, le même principe, oui.
Oui.
On est d'accord.
Au niveau
l'idée,
de la
c'est
de
développer les entreprises. Effectivement, on se base sur la recommandation parce qu'aujourd'hui, plus de 70% du chiffre d'affaires d'une TPE, c'est du bouche à oreille. Par contre, notre méthode, elle est différente. Nous, nos réunions, elles sont entre midi et deux. Nous, on se base sur des principes d'intelligence collective, de sociocratie. Ça veut dire qu'en fait, si vous intégrez Bouge ta boîte, vous êtes une dirigeante, vous êtes opticienne, experte comptable, vous décidez qui va être votre équipe. Et donc, vous allez travailler avec un comité stratégique qui va vous aider à développer votre stratégie business.
Et j'ai pu voir ce qui peut vraiment vous caractériser, c'est que vous avez mis un point d'honneur à fédérer ailleurs qu'à Paris, puisque ces femmes sont partout en France.
Oui, exactement. On n'est pas un réseau de parisiennes. Nous, aujourd'hui, on est dans plus d'une centaine de villes en France, d'accord ? On a un réseau qui a grandi d'ailleurs à Rennes, en Bretagne. Donc, on est des Bretonnes. Et puis, aujourd'hui, on est un peu partout en France. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller développer la force dans les territoires. Par exemple, en Île-de-France, on a une quinzaine de groupes de dirigeantes, d'accord, mais que 5 à Paris. Ça veut dire que on est également à Fontainebleau, à Melun, à Chelles, à Asnières, à Houille. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller voir la force sur les territoires, et il y en a énormément de force dans les territoires.
Oui, oui, c'est certain, et je trouve que c'est une belle idée de vouloir générer ce genre de méthode sur le territoire. Alors, vous avez évoqué 1700 dirigeantes dans 100 villes. Moi, je voulais rajouter quelques chiffres. 2600 réunions physiques et digitales par an, 5 millions de chiffres d'affaires générés. Et comme vous l'avez dit très justement, à chaque fois, vous appuyez sur les institutions locales, les CMI, les CMA, les CCI. Elles doivent être quand même contentes que vous les sollicitiez, ces institutions.
Elles sont contentes, elles sont parfois surprises,
oui.
Parce que les entrepreneurs ne sont pas habitués à avoir un coup de projecteur. D'accord, c'est important de se le dire. La visibilité des entrepreneurs, elle est pas très importante. Et nous, c'est ce qu'on veut changer. On veut leur dire soyez visibles, obtenez la visibilité que vous méritez et prenez des mandats, par exemple au CCI, etc. Donc effectivement, certaines personnes sont surprises de nous voir venir arriver, mais on a souvent un très bon accueil, en tout cas c'est l'accueil qu'on espère, et on crée des relations. Selon les institutions, ça prend plus ou moins de temps, mais on a signé un partenariat officiel avec la Chambre des métiers de l'artisanat, et depuis on travaille vraiment ensemble et en collaboration.
Oui, ce qui vous différencie aussi, je trouve, c'est que vous êtes un réseau qui affiche sans interdit ses objectifs.
Oui, sans interdit les objectifs.
Parce que quelquefois, les réseaux féminins disent c'est pour se voir, tout ça, mais elles n'osent pas dire franchement que c'est pour faire du business.
Exactement. Ouais. Vous connaissez sûrement des réseaux d'entraide, des associations. Nous, en fait, notre mission, elle est claire, c'est permettre aux entrepreneurs de faire de l'argent. Mm-hmm. Et oui, c'est en parlant d'argent qu'on en fait le plus.
C'est sûr.
Donc, c'est important de mentionner cette notion de business, parce que un cercle de copines, on peut l'avoir, d'accord, mais c'est un cercle qui va pas forcément tenir sur la durée. Donc en échangeant du business, en montant en compétences, en trouvant son équipe, en romp- en essayant de rompre vraiment la solitude de l'entrepreneur, c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir développer son entreprise et avoir des collaboratrices de confiance.
Le leitmotiv de Bouge ta boîte, c'est se dire que c'est possible.
C'est se dire que c'est possible, c'est de bouger les lignes de l'économie, c'est se rendre visible, c'est de ne pas avoir peur et c'est d'avancer ensemble.
Alors, toujours avec la même énergie, vous organisez le 25 novembre un événement avec encore des femmes inspirantes. Racontez-nous.
Alors, cet événement, il s'appelle L'argent. Parlons-en pour en gagner plus. Vous voyez, on affiche toujours vraiment le même leitmotiv.
C'est très clair.
C'est clair, effectivement. Donc, c'est une journée qui sera dédiée aux dirigeantes de l'Île-de-France. On va commencer de 9h30 à 11h avec une table ronde sur cette thématique-là. C'est une thématique qui est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de freins liés à l'argent. Et ces freins liés à l'argent font que aujourd'hui, on a 60% des entrepreneurs qui font pas de prévisionnel. On a moins de 40% des entrepreneurs qui sont formés à l'entrepreneuriat, parce que oui, il faut être formé. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur du jour au lendemain. Et sur les femmes qui créent leur boîte, moins de 50% ont du financement. Parce que quand on ne sait pas parler d'argent, eh bien, on ne sait pas en demander à la banque ou à l'agglomération. On ne sait pas les aides qui existent. On pense que toute seule, on peut y arriver. Et aujourd'hui, pour celles qui se lancent avec du financement, 75% se lancent avec du financement personnel.
Ah oui.
Donc c'est denier personnel, vous vous imaginez ? Je me lance avec mon argent perso, mais je ne sais pas si je vais pouvoir être rentable.
Oui.
Donc forcément, c'est pas la clé du succès. Donc on a décidé de faire cette table ronde et l'idée c'est de se dire, ok, comment est-ce que je parle d'argent ? Comment est-ce que j'estime ma valeur ? Parce que l'idée c'est aussi de savoir poser des prix juste sur ses prestations. Je suis une experte, je mérite de gagner de l'argent et d'être estimée à ma juste valeur. Et tous ces freins en fait, ils sont basés aussi et ils sont la conséquence d'un système qui fait que les entrepreneurs ont une position très compliquée à l'argent. Donc on va aller lever ces freins les uns après les autres avec des expertes. On aura avec nous Adeline Attia, qui est une serial entrepreneur et qui est notre partenaire sur cet événement, qui a créé Bonnie & Smile, un espace de coworking dans le 16e arrondissement qui s'adresse notamment aux femmes. On aura Laurence Meignery, qui est quand même une entrepreneur qui sait parler d'argent puisqu'elle a créé Citizen Capital, qui est quand même le premier fonds à impact créé en France. On va avoir également Séverine Lelorne-Lemaire, qui elle est une chercheuse et qui est à la tête de la chaire Renouveau économique et femmes. Ça veut dire qu'elle va pouvoir nous dire un petit peu pourquoi et comment se sont créés ces freins et comment les lever. Et elle a fait beaucoup d'études également à l'international. Donc elle pourra voir un petit peu où est-ce qu'on se place, nous, en France, sur cette question du frein et de parler d'argent, notamment par rapport à nos consoeurs américaines, par exemple.
Oui, ce sera un regard plus académique, en fait.
Ouais, plus académique et peut-être plus global aussi. On va pouvoir essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on se place par rapport au pays et voir un petit peu comment les inconscients, donc c'est ce qu'on appelle un peu les biais, ont été construits et comment les déconstruire. Et on aura également avec nous Alexandra Dublanche, qui est la vice-présidente de l'Île-de-France, en charge notamment de la relance et qui est très impliquée sur l'entrepreneuriat féminin. Donc ça va être une table ronde, je pense, extrêmement riche.
Ah oui, en effet, Alexandra Dublanche, on peut dire qu'elle est vraiment, elle soutient une plus grande émancipation économique des femmes, hein, c'est clair.
Une émancipation des femmes et une indépendance économique. C'est très important, l'indépendance économique. On parlera également de levée de fonds. C'est important aujourd'hui, on le sait, l'écart des fonds levés entre les femmes et les hommes, c'est 2,3. Et quand on parle de levée de fonds de plus de 10 millions d'euros, entre 10 et 50 millions, c'est 2% des femmes. Est-ce que vous vous imaginez ? Je vous rappelle que cette semaine, on a parlé de 9h25, à l'heure à laquelle les femmes arrêtent de travailler, parce qu'il y a un écart de salaire extrêmement important. Aujourd'hui, l'écart de salaire, il est de 16,5. Et pour atteindre une égalité salariale, il va falloir attendre 135 ans si on continue comme ça. Alors nous, on a décidé qu'on continuerait pas comme ça et qu'on va changer les choses.
Non, non, soyez optimistes, ça va changer beaucoup plus vite. Ces femmes emblématiques que vous recevez, est-ce qu'elles génèrent un véritable engouement en ce qui concerne la participation lors de vos événements?
Ouais, on a fait un événement adressé directement à nos dirigeantes et on est presque complet déjà alors que c'est sorti il y a moins d'une semaine. Donc il y a un véritable engouement, surtout pour le sujet. Je pense que chaque entrepreneur peut se reconnaître. On a toutes eu un moment où on s'est dit... est-ce que je peux monter mes prix? Comment est-ce que je peux négocier? Est-ce que j'ai le droit de dire non? Est-ce que j'affiche mes tarifs? Est-ce que comment est-ce que j'en parle? Etc. Etc. Donc c'est un sujet qui leur parle beaucoup et je pense qu'elles ont hâte d'avoir des conseils. Et si vous nous entendez aujourd'hui, si vous vous dites, je pense que ça pourrait m'aider également d'avoir ces conseils et c'est vraiment cette expertise, eh bien vous pouvez nous retrouver sur cette table ronde de 9h30 à 11h. Elle sera accessible en direct depuis le Facebook de Bouge ta boîte. Donc Bouge ta boîte, allez nous retrouver sur Facebook et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions.
Oui, il suffit d'aller sur le site et de s'inscrire d'une façon très, très facile. Hein, c'est
alors,
ça.
Alors, s'inscrire sur le site, c'est vraiment pour nous rejoindre. Et si vous avez envie de tester l'expérience Bouge ta boîte, d'aller rencontrer un cercle de dirigeantes, c'est complètement gratuit. Et le meilleur moyen de savoir si notre réseau est fait pour vous, c'est vraiment d'aller le tester. Parce que c'est une question d'humain, il faut toujours le signaler, on parle d'argent, mais on parle aussi de personnes. Et donc comme vous choisissez votre équipe, il est important que vous vous entendiez très bien avec elle. Mais par contre, pour nous rejoindre sur Facebook, pas besoin d'être inscrite, vous nous retrouvez directement sur la page de Bouge ta boîte.
Très bien. J'ai noté aussi que vous souhaitiez que ces femmes, on parle souvent de références masculines. La semaine dernière, j'ai reçu une invitée qui a écrit un livre sur les pionniers. Dans le domaine médical, et des femmes qui avaient trouvé des médicaments et qui sont complètement tombées dans l'oubli. Et aujourd'hui, vous militez un petit peu pour ces références féminines.
Exactement, parce que pour se dire que c'est possible, il faut que quelqu'un nous montre la voie, souvent. Mmh. Et nous, ce qu'on a envie, c'est que, eh bien, ces entrepreneurs-là, qui font partie de notre réseau, puissent montrer la voie à d'autres et se rendre visibles. Aujourd'hui, on a signé un partenariat avec 100 000 entrepreneurs, qui est une association qui a pour but d'amener l'entrepreneuriat dans les écoles. C'est officiel, on va les aider à le faire. Et donc, on a envie que nos entrepreneurs, elles puissent inspirer la nouvelle génération qui puisse se dire... Ok, je peux être ma propre patronne, je peux être une dirigeante et une chef d'entreprise.
Oui, c'est une belle idée que de commencer très jeune à inspirer.
Exactement, on prend pas de mauvaises habitudes, on se dit déjà, ok, je peux le faire, tout est possible, exactement. Et si on commence dès le plus jeune âge, eh ben on sera fin prête quand on voudra monter sa boîte.
Alors, vous nous avez expliqué comment faire pour rejoindre ce réseau. Moi, je voulais poser une autre question. Combien ça coûte?
Combien ça coûte? C'est une très, très bonne question. Parlons d'argent. Donc, on est un réseau business. Donc, c'est une adhésion de 490 € hors taxe par an. D'accord? Et ça, c'est vraiment pour faire partie d'un cercle. Après, si aujourd'hui, nous ne sommes pas près de chez vous, parce que ça peut arriver, mais on va essayer de régler ça le plus rapidement possible. On a également une offre 100% digitale qui permet à n'importe quel entrepreneur de ne pas être seul, de faire des événements de réseautage, de participer également à des événements de réseautage sur son territoire. Et cette offre-là, elle est à 49 € par mois et sans engagement.
C'est ça. Et au vu des chiffres que vous m'avez annoncés sur les bénéfices que font vos adhérentes en utilisant la méthode Bouge ta boîte, c'est un retour sur investissement assez rapide.
Ouais, effectivement, ça peut être très rapide. Bien entendu, il faut être proactif dans la démarche parce que c'est un réseau. Ça veut dire que pour que ça marche, il faut se mettre dedans, il faut apprendre à rencontrer les gens, il faut accepter de parler d'argent. Il faut donner avant de recevoir, exactement. Mais ça fonctionne. On a des entrepreneurs qui font plus de 55% de leur chiffre d'affaires grâce à Bouge ta boîte, des groupes qui ont fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2021. Ah oui. Vous vous rendez compte, Jacqueline?
C'est énorme.
C'est énorme, surtout en 2021. C'est pas forcément l'année la plus facile. Donc ça fonctionne, effectivement. Et le retour sur investissement, il est tangible en tant qu'argent et chiffre d'affaires généré, mais également économie. Parce que quand on nous aide sur notre stratégie, sur notre comptabilité, publicité, sur notre communication, on économise de l'argent. Et puis, il est tangible également sur la posture. Nous, on a des personnes qui viennent. Ça fait un an que j'ai rejoint Bouge ta boîte et maintenant, je vois un peu les fruits de choses que j'ai semées au fur et à mesure. Et on a des personnes qui pitchent avec assertivité maintenant et qui me disent « Mais Laetitia, tu te rends compte, maintenant, je suis une chef d'entreprise. » Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça, ça vaut tous les remerciements du monde.
Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais elle est très convaincante, non? Vous trouvez pas?
Très convaincante.
On a envie de l'embaucher tout de suite.
Bah, c'est ce que j'espère, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Laetitia Farine, avec grand plaisir.
Bon, Laetitia, si vous aviez des besoins à exprimer aujourd'hui, quels seraient-ils?
On a besoin que vous soyez là le 25 novembre pour cette intervention. C'est important que les dirigeantes soient visibles et surtout qu'elles lèvent les freins liés à l'argent. Soyez ambitieuses, rayonnez sur votre territoire, soyez visible, osez dire je veux faire de l'argent et je mérite de faire de l'argent. Et on a besoin de plus de dirigeantes en Ile-de-France. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à participer à l'une de nos réunions. C'est gratuit et j'espère que le réseau pourra vous aider à vous développer autant en tant que leader, mais aussi en tant qu'entrepreneur.
Oui, moi j'aurais adoré pouvoir assister à votre réunion du 25 novembre. Malheureusement, je suis en province cette semaine-là.
Bon, on devra réorganiser une prochaine.
Bien
voilà,
sûr,
on n'a pas
sûr.
Le choix.
Quoi, absolument, absolument. Justement, vous avez des projets sur 2022?
Des projets, on en a beaucoup.
Plein.
Je vous demande de rester attentive et attentif. Regardez notre compte LinkedIn, on a plein de choses qui arrivent. On est en train de repenser plein de choses pour pouvoir s'adresser vraiment à toutes, pour leur permettre de monter en compétence sur différents sujets. Et puis, oui, on a envie aussi d'organiser un grand rassemblement avec toutes les entrepreneurs d'ici fin de l'année, comme on l'avait fait avant le Covid. C'était 1000 entrepreneurs réunis au même endroit. Donc, comptez sur nous, on travaille dessus.
J'en suis certaine. On vous souhaite beaucoup de succès pour cet événement du 25 novembre. Laetitia, je sais que vous ne manquez pas d'énergie, d'enthousiasme et donc tous les ingrédients sont là pour. Je sais aussi que vous devez vous rendre maintenant à Fontainebleau. Donc voilà, on a été ravis de vous recevoir et puis plein de bonnes choses pour la suite.
Merci de votre invitation. À très bientôt.
Merci. Au revoir Laetitia. On va marquer juste une pause et après on retrouve notre expert en communication. À tout de suite.
Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas.
hasard. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
C'est l'économie en direct sur IDFM 98 ou 98.fr. Il est 9h58 et c'est l'heure à présent de donner la parole à notre expert en communication, Étienne Barrier, pour sa chronique. Bonjour Étienne, j'espère que vous allez bien.
Bonjour Jacqueline, merci, j'espère que vous allez bien également. Alors aujourd'hui, je vais parler de branding, de la marque de l'entreprise, de l'image de marque de votre entreprise. Alors c'est souvent un sujet qui est sous-estimé, voire complètement occulté, oublié par les entreprises. Et pourtant, il est extrêmement puissant puisque c'est lui qui va vous différencier de vos concurrents. Et c'est aussi très souvent le cas, c'est grâce à lui que vous allez faire des ventes par rapport à vos concurrents. Alors qu'est-ce que c'est que le branding? Qu'est-ce que c'est que l'image de marque? Tout simplement, en fait, c'est l'ensemble des éléments qui constituent votre marque. Dans un premier temps, on va penser évidemment au logo, mais on a aussi tout ce qui va toucher à la charte graphique, aux couleurs. C'est extrêmement important d'avoir des couleurs dont on va se souvenir, et lorsqu'on va penser à ces couleurs, on pensera à vous. On va aussi avoir tous les éléments qui vont être la façon dont vous allez vous exprimer, que ce soit à l'écrit, que ce soit en vidéo, etc. Et donc c'est la manière dont en fait vous allez vous exprimer. Ça peut être un ton sérieux, un ton humoristique. Par exemple, lorsqu'on prend Burger King, ils ont un ton assez humoristique, voire sarcastique par rapport à leurs concurrents, et on les reconnaît tout de suite. Une autre chose importante dans l'image de marque, ça peut être des sons par exemple. Et si je vous chante ta 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 ta, et ben vous allez penser à une certaine marque qui vend des burgers. Voilà, donc c'est extrêmement important de pouvoir comprendre et de pouvoir travailler sur l'image de marque dans son ensemble, et tous ces éléments en fait vont vous servir à communiquer, que ce soit sur votre site internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la radio, à la télé, en vidéo sur YouTube, etc. Tout ça va construire en fait un branding, une image qui sera homogène et qui fera en fait, à force de le rappeler, de le répéter, que lorsque votre prospect verra quelque chose qui vous ressemble par exemple, il pensera à vous. On va prendre l'exemple, toujours pour rester un petit peu dans le même domaine. Si je vous parle des couleurs rouge et jaune, et si je vous parle aussi de deux arches, vous allez penser à McDonald's. Et effectivement, en fait, ce sont ces couleurs qui, à force de revenir, sont ancrées dans notre inconscient. Alors le branding, c'est une très très belle chose, c'est extrêmement puissant, mais il va aussi s'attacher en fait à véhiculer les valeurs de l'entreprise. Et ces valeurs, en fait, l'important c'est qu'elles soient le plus proches des vôtres. Parce que le branding, en fait, il va s'installer dans le temps. Et donc, si on a des valeurs qui ne sont pas les nôtres ou trop éloignées, il va être très très compliqué de pouvoir, bah, du coup, les tenir sur la durée. Et donc, c'est important d'avoir des valeurs qui nous ressemblent, qu'on va pouvoir défendre, et des valeurs souvent qui vont être en opposition. Donc, il faudra avoir, voilà, quelque chose en commun avec ces valeurs pour pouvoir les défendre auprès de personnes qui n'auraient pas forcément les mêmes valeurs. Et quand je parle de valeurs, il faut que ce soit des valeurs aussi qui soient différenciantes. Lorsqu'on dit que nos valeurs, ça va être la réactivité, qu'on aime faire notre travail, qu'on a des produits de qualité, évidemment, c'est la base pour toute entreprise. Personne ne va clamer qu'ils font des produits qui se cassent au bout de 2 semaines et qui n'aiment pas leur travail. Donc il faut vraiment des valeurs qui soient proches des nôtres. Un autre exemple, par exemple, on va parler de la liberté. Et la liberté, c'est l'une des valeurs fondamentales de Harley-Davidson. Des motos qui prônent la liberté de prendre la route pour le plaisir. En contradiction, ça va être la sécurité. Et par exemple, la sécurité avec les BMW, qui sont des motos qui sont extrêmement sécuritaires, mais qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas les mêmes sensations à leur conducteur. Donc voilà, l'image de marque, le branding, c'est extrêmement important, c'est assez riche aussi à construire, et donc c'est important de pouvoir s'y pencher afin de se différencier et d'augmenter ses ventes dans le temps. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
Merci Étienne pour cette nouvelle chronique, j'ai découvert que vous saviez bien chanter. À la semaine prochaine Étienne. IDFM 98 ou 98.fr, c'est l'économie en direct en compagnie ce matin de Jérôme Morge, directeur opérationnel du campus à Argenteuil des métiers et des qualifications d'excellence autour des métiers de la sécurité que l'on nomme CMQ, et Arnaud Gallet, anthropologue, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger, membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et notre première invitée, Laetitia Farine, animatrice réseau pour Bouge ta boîte, nous a quittés parce qu'elle avait un rendez-vous sur Fontainebleau. Rebonjour Jérôme Morge, merci vraiment d'être à nos côtés ce matin.
Merci. Alors, pour l'invitation.
Je vous en prie. Jérôme, vous êtes ingénieur, diplômé de l'EISTI, École internationale des sciences du traitement de l'information, située à Cergy-Pontoise, et qui aujourd'hui, avec une fusion, s'appelle CYTech, c'est ça ?
CYTech.
CYTech, oui, je le prononce pas toujours très bien. Et vous-même, Jérôme, vous êtes ingénieur dans quelle spécialité ?
Alors moi je suis ingénieur généraliste avec mon diplôme de l'EISTI, oui. Avec une forte dominance plutôt sur tout ce qui va être informatique.
D'accord. Et racontez-nous alors comment les différentes étapes qui vous ont amené à ce titre de directeur opérationnel du campus d'Argenteuil ?
Alors il y a quelques années, enfin après mon diplôme, j'ai commencé par faire une quinzaine d'années dans les systèmes d'information, que ce soit du déploiement de RP ou de business intelligence. Et puis après, je suis, comme on dit, retourné dans mon école pour prendre différentes responsabilités, puisque je suis diplômé de l'EISTI. Et puis j'ai repris des pôles d'activité pour arriver jusqu'à directeur délégué de l'EISTI, jusqu'à la fusion avec l'université de Cergy pour créer ce qu'on appelle CY Cergy Paris Université.
Oui.
Ce grand établissement. Et puis, du coup, le président de l'université, au moment de la fusion, puisque mon poste, le ISTI était une école privée, mon poste n'existant pas dans le public, m'a proposé de rejoindre le cabinet, son cabinet, et puis de prendre des projets en fonction de ce qui allait arriver. Et c'est une question d'opportunité, une question de timing. En fait, à ce moment-là est arrivé le dossier des campus des métiers et qualifications autour des métiers de la sécurité. Et François Germinet m'a proposé de le prendre à bras-le-corps, si on peut dire. Et j'ai sauté sur l'occasion, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et quelque chose de nouveau dans l'enseignement.
Oui, c'est ça. Vous allez être des deux côtés de la barrière, si l'on peut dire. Et ça vous plaît.
Oui, je pense que ça correspond bien aussi à mon profil, moitié entreprise, moitié éducation. Et puis les campus des métiers et qualifications sont nouveaux en fait dans l'enseignement. Enfin, ça a quelques années, mais l'idée en fait, c'est de se trouver au milieu de l'enseignement scolaire. Donc tout ce qui est plutôt collège, lycée, de l'enseignement supérieur, le post-bac, de se trouver au milieu de l'entreprise et du monde de l'enseignement, de se trouver au milieu de la formation initiale et de la formation continue, un grand sujet en ce moment. Donc voilà, c'était un nouvel outil pédagogique et qui est plutôt en transverse puisqu'on l'attaque par thématique. Et celui dont j'ai la charge, c'est vraiment le thème de la sécurité.
C'est ça. Et donc, vous allez nous expliquer en détail ce qu'est ce campus des métiers des qualifications qui donc est basé à Argenteuil et soutenu par le rectorat de l'Académie de Versailles.
Exactement. Alors, quand on a commencé à travailler sur le dossier, on est début 2020 à peu près, il a fallu écrire le dossier pour le déposer au PIA, le plan d'investissement d'avenir, et à une autre commission qui s'appelle la labellisation pour avoir le droit de s'appeler Campus des métiers et qualifications d'excellence. Oui. Différents thèmes autour de la sécurité, parce que quand on parle de sécurité, on peut mettre beaucoup de choses derrière.
C'est très vaste.
Donc beaucoup de différents thèmes sont arrivés au fur et à mesure des réunions avec les uns et les autres, et quatre axes se sont dégagés. Le premier, c'est ce qui va être la sécurité numérique. Donc derrière la sécurité numérique, on va mettre tout ce qui est système d'information, RGPD, et puis le grand thème à la mode, la cybersécurité en ce moment, qui prend quand même beaucoup de place dans l'actualité.
Dans nos vies, donc, voilà. Au quotidien.
Le deuxième thème, c'est ce qu'on appelle la sûreté-sécurité. Donc là, on est plutôt sur la sécurité des biens et des personnes, donc ce qu'on appelle tout ce qui va être agent de prévention et sécurité, les agents cynophiles, tous les gens que vous rencontrez en fait au quotidien, typiquement des agents aéroportuaires et ainsi de suite. Et puis la sécurité des biens, ça va être tout ce qui va être système de vidéoprotection, contrôle d'accès et système d'alarme. Voilà. Dans cette catégorie, on classe différents partenaires. Il faut bien prendre tout ce qui est régalien aussi, que ce soit de la police municipale, la police nationale, gendarmerie, l'armée et ainsi de suite.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser pour notamment pour la cybersécurité. Vous êtes en lien avec ces autorités.
Oui, alors pour la cybersécurité, on a différents partenaires. Pour revenir sur le premier axe, on va retrouver des partenaires plutôt avec une grande visibilité que peuvent être IBM, Atos et l'ANSSI, bien sûr. Après, on a d'autres partenaires. C'est important d'avoir des partenaires, on va dire, de grands noms, de grandes marques avec de grandes visibilités, mais aussi des partenaires locaux pour s'inscrire dans la région Île-de-France et dans le 95, tel que peut être EDC Network, par exemple, une société argenteuillaise, en pleine expansion. Alors le troisième axe, il n'y a pas de souci. Le troisième axe, c'est tout ce qui va être santé, sécurité au travail. En prenant ce dossier début mars, exactement, à quelques jours près avec le confinement, on s'est quand même aperçu de beaucoup de problématiques de l'être humain lui-même au sein de la société, que ce soit des problématiques personnelles, des problématiques professionnelles, l'équilibre, déjà du temps de travail, le temps personnel, le temps professionnel. Et puis, au fur et à mesure des confinements, reconfinements, déconfinements qu'on a eu là sur les deux années maintenant, il y a quand même eu certaines problématiques qui ont été constatées sur la confiance qu'il peut y avoir entre l'individu et son entreprise, entre l'entreprise et l'individu, des problématiques managériales, où au début la confiance était vraiment dans tous les sens, et puis au fur et à mesure, quand même, les gens se demandaient si les employés travaillaient vraiment, comment est-ce qu'on les coache à distance. Toutes ces problématiques n'avaient pas du tout été anticipées, et donc c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup en ce moment. Ça, c'était notre troisième axe. Et puis le quatrième axe, c'est tout ce qui va être grands événements et gestion des risques pandémiques. Alors, grands événements, il suffit de donner deux dates, il ne faut pas s'arrêter à celle-là, mais quand même, ce sont vraiment nos deux grands objectifs qui concernent un peu tout le monde. 2023, Coupe du Monde de rugby, et 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques. Il ne faut pas oublier la partie paralympique qui est très importante et essentielle et qui va demander autant de moyens que l'autre, en effet. Voilà.
Et donc vous, à travers tout ce que vous nous décrivez, le but c'est d'améliorer à chaque fois les techniques qui existent déjà ou en tout cas d'innover.
Alors le rôle du campus, faut bien le situer côté formation, le campus. Mais le rôle du campus, c'est vraiment d'animer un réseau. Et c'est là où ça devient un peu compliqué parce que dans le réseau, on met tout le monde, que ce soit les jeunes, quand même, qu'on cherche à former. Hein, c'est eux qu'on cherche à former, mais les moins jeunes aussi, puisqu'on fait de la formation continue. Puis après, on les forme pour un métier. Et donc là, ce sont les entreprises qui entrent dans la boucle. Et puis, bien sûr, en sous-jacent de ça, on a tout ce qui est tous les organes de formation, hein, que ce soit le scolaire ou le supérieur. Et puis, bien sûr, tout ce qu'on va appeler les institutionnels, que peuvent être une ville, un département, une région, puisque le campus a quand même une grosse empreinte régionale. On travaille vraiment sur l'aspect régional. Hein. Les fondateurs le montrent. Hein, si c'est bien CY Cergy Paris Université, le porteur du campus, il a bien été co-signé en effet par le président de CY, mais aussi par madame la présidente de région d'Île-de-France, Valérie Pécresse, madame la rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, et le recteur académique, donc monsieur Guerrero. Donc c'est important de bien le situer dans ce monde-là. Et puis dans le cahier des charges des campus des métiers et qualifications, il est dit que c'est du moins 3 plus 3. Avant le bac et post le bac. Sauf que dans notre cas, en fait, on a élargi le scope. Pourquoi ? Parce qu'on va descendre à moins 5. Tout ce qui est prévention routière commence à bac moins 5. Donc on va investir les collèges par rapport à ça. Et puis l'avantage d'avoir une université telle que Cergy, c'est de pouvoir monter jusqu'au doctorat. Donc on va faire du moins 5 plus 8. Voilà, on va un scope très très large par rapport à ça. Alors après, le rôle du campus, c'est quoi ? C'est de réunir les différents acteurs. On a notamment ce qu'on appelle des comités sectoriels pour ça. Donc on réunit par thème le numérique, la sûreté-sécurité, la santé-sécurité au travail, les acteurs. Et puis tout le monde échange. Par exemple, vous allez avoir des entreprises qui vont dire « moi je cherche tel profil ». Et là le monde de l'enseignement va répondre « c'est dans telle formation ». Super. Vous allez avoir un autre cas, c'est l'entreprise qui dit « vous formez dans tel métier, dans tel domaine, avec telle compétence, c'est bien, mais ». Si vous pouviez le compléter, et donc c'est là, c'est l'objectif, augmenter l'employabilité,
c'est ça. Ça enrichir en fait
enrichir
vos...
la formation. Et donc le rôle du campus arrive à ce moment-là. Une fois qu'il a réuni les gens, qu'on s'est concerté les uns et les autres, c'est de l'incubation, c'est de porter des nouveaux modules de formation, typiquement pour, ce que je disais tout à l'heure, augmenter l'employabilité des jeunes. Et puis après, vous avez l'autre partie, c'est une entreprise qui dit, c'est tel profil. Mais en fait, le monde de l'entreprise bouge. Les besoins, les compétences, les technologies, les process, tout bouge très vite. Et il faut être le plus réactif possible. Et c'est ça aussi une mission du campus, c'est d'être réactif sur le monde de l'enseignement. Et donc, on a typiquement créé 3 formations, une en réseau et cybersécurité, une en vidéoprotection, contrôle d'accès et système d'alarme, et une en management de proximité qu'on incube au sein du campus. Donc ce sont des bacs plus 1. Les 3 sont des
bacs
plus 1.
C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser.
Voilà. Donc aujourd'hui, alors pourquoi des bacs plus 1 ? Une petite aparté là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde connaît les niveaux d'enseignement bac plus 5, master, que ce soit université, école d'ingé, école de commerce, licence, bac plus 3. Et puis un nouveau niveau apparaît, c'est le bac plus 1, formation supérieure de spécialisation. Donc il y avait 4 initiateurs, si on peut dire comme ça, en septembre 2020, et puis 4 formations, hein, je parle, et puis là nous sommes 26 formations en septembre 2021, et c'est quelque chose qui est en train de prendre. Pourquoi ? Parce que c'est l'objectif de ces formations-là, c'est de prendre des gens qui ont le bac, et en un an de leur amener un métier. Donc on se retrouve typiquement dans l'objectif du campus, hein, la formation par la professionnalisation, par le métier, par les enseignants. Donc on a créé ces 3 formations-là. On a ouvert en septembre dernier avec 40 élèves et aujourd'hui on est à 64 élèves avec ces 3 mêmes formations. Et une réussite dans tous les sens du terme, si on peut se le dire, tout simplement parce qu'on a plus d'élèves, donc les formations commencent à être connues, ok, ça c'est bien, mais le rôle du campus c'est vraiment de, comme je vous le disais, d'incuber. Et donc ces formations, de ces formations sur les 3, sont en train d'être déployées pour septembre prochain dans des établissements de la région Île-de-France. Donc on travaille à ça aujourd'hui, à pouvoir détecter des nouveaux besoins, être réactif sur ces besoins-là, définir les programmes pédagogiques, concevoir les programmes, du coup, trouver les enseignants, et puis trouver les élèves et former, et emmener très vite des gens sur le marché du travail capables de répondre ce besoin, le besoin des entreprises.
À la fois sur le marché du travail, mais peut-être aussi avec l'envie d'entreprendre également.
Alors, l'envie d'entreprendre fait partie, peut-être pour rejoindre la dame qui était là tout à l'heure, l'envie d'entreprendre fait en effet partie d'un des axes du campus. Alors, très clairement, hein, c'est un dossier qui est quand même assez volumineux, et c'est quelque chose qu'on travaillera. donc j'emploie bien le bon terme, au futur, enfin le bon
c'est
temps
ça.
Au futur, oui, bien sûr,
c'est pas le,
aider
c'est pas
les jeunes
c'est pas
à
la
entreprendre
priorité.
Et ainsi de suite, voilà, c'est pas aujourd'hui notre priorité, il est important de se constituer, de se stabiliser et ainsi de suite. Aujourd'hui, typiquement, on a pris depuis un mois pleinement possession de nos locaux. Quand il a fallu faire des formations, il a fallu trouver des locaux pour faire
bien
des
sûr.
Formations, et donc là c'est la ville d'Argenteuil où est situé le campus des métiers et qualifications d'excellence autour de la sécurité, qu'on appelle le campus sécurité, hein, ça fait plus court.
Oui.
Et donc la ville d'Argenteuil nous a proposé d'investir les bains-douches de la ville d'Argenteuil, donc on est au plein centre de la ville. Donc on a commencé l'année dernière avec le rez-de-chaussée, puis aujourd'hui on a les trois étages pleins, enfin rez-de-chaussée premier et deuxième, avec 400 mètres carrés, trois salles de formation, des espaces dédiés par rapport à nos thématiques, énormément de matériel, parce que la formation se fait par la pratique, et c'est vraiment quelque chose auquel on tient, et puis se fait par la pratique, mais avec des professionnels. Plus de 50% de nos enseignants sont des professionnels qui viennent former les jeunes à leur métier. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui,
oui.
les professionnels définissent les besoins, nous les expliquent. Alors, le monde de l'enseignement garde des maquettes pédagogiques, la cohérence, ainsi de suite. Mais ceux qui savent le mieux quel est le bon geste, c'est celui qui le pratique au
bien
quotidien,
sûr,
c'est-à-dire le
sûr.
Professionnel.
C'est sûr, c'est sûr. Et la capacité globale du campus sera de combien pour accueillir des élèves ?
Alors, aujourd'hui, on est sur un bâtiment, comme je vous le disais, qui fait 400 mètres carrés, trois salles de cours. On peut accueillir jusqu'à 3 fois 24. Ce sont des petits groupes de 24, on ne fait pas plus. Et puis on se projette dans quelques années. Donc aujourd'hui, la date qui est annoncée, c'est septembre 2024, mais ça risque de glisser un petit peu. Hein, pour se projeter à l'IUT d'Argenteuil, en fait, où qui va être vidé, si on peut dire,
ouais.
puisque toutes les activités de l'IUT d'Argenteuil vont remonter sur Neuville.
C'est
donc
ça.
Le bâtiment va être laissé vacant par l'université et nous allons pouvoir l'investir. Et là, il y a 5700 mètres carrés.
Ouais.
Vous voyez, de 400 à 5700. Mais
oui.
on a beaucoup de projets avec différents partenaires.
Oui,
hein,
oui.
Et on sait, enfin, je ne veux pas dire qu'on sait déjà comment on va occuper les 5700 mètres carrés, mais on a quand même de très belles idées sur des choses à faire. Aujourd'hui, quand vous parlez de vidéoprotection, avoir des showrooms, être capable de mettre les élèves en situation, tout ce qui est vidéo, contrôle et ainsi de suite. Des exemples, hein, avec une volière de drone.
Oui,
avec,
j'ai vu
des
ça,
parcs.
Une volière de une volière.
Aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent typiquement pour faire du contrôle de voiture. Vous faites passer une voiture sur une route et en fait, vous mettez des caméras, enfin, je schématise, mais mettez des caméras, on va dire, dans le bitume, dessous, et les caméras sont capables de détecter tout colis suspect sous une voiture.
Ah, oui.
Donc, on n'a plus besoin de mettre un miroir sous une feuille de voiture comme on peut voir dans des séries télé.
D'accord.
Ou ainsi de suite. Ce sont des choses qui peuvent être faites complètement automatiquement aujourd'hui par des systèmes informatiques. Mais il faut savoir les mettre en place, il faut avoir des... Voilà, et former les gens sur ça, c'est notre rôle.
En vous écoutant, je me demandais si, au fond, cet espace, ça va être, c'est unique en France ?
Alors, il existe aujourd'hui plus d'une centaine de campus des métiers et qualifications.
Oui.
Il en existe une quarantaine qui sont d'excellence.
Oui.
Il y a 10 critères différents
oui.
pour être dans la catégorie excellence. Aujourd'hui, il y a 14 dossiers dans la région Île-de-France. Il y en a 6-7 qui sont pleinement actifs. Mais chaque campus des métiers et qualifications a une thématique.
C'est ça.
Donc, sur la sécurité en Île-de-France,
oui.
il n'y en a qu'un seul. Nous ne traitons que de la sécurité. Et en France, il n'y en a qu'un seul aussi. Et nous ne traitons que de la sécurité. Mm-hmm. Vous avez dans le Nord, typiquement, un autre campus des métiers et qualifications qui est sur transport, logistique et sécurité.
C'est ça.
Mais
oui.
il fait de la transport, logistique et de la sécurité.
C'est une autre thématique.
Nous, on fait 100% de sécurité par rapport aux quatre axes qu'on décrivait tout à l'heure.
Ça va peut-être contribuer à changer l'image d'Argenteuil, qui n'est pas toujours une image forcément positive.
On amène à Argenteuil de l'enseignement supérieur, on
oui.
amène à Argenteuil des formations d'une certaine qualité. Quand vous prenez réseau et cybersécurité, aujourd'hui on a beaucoup de... on parle de sécurité dans les thèmes de la campagne présidentielle. C'est plus
oui.
le premier thème, c'est passé le deuxième après le pouvoir d'achat, mais ça reste un thème prépondérant. Donc là, on est plutôt sur la sécurité physique, sécurité des biens et des personnes. Mais en amenant des formations telles que réseau et cybersécurité avec l'historique, l'expérience qu'on peut avoir avec les partenaires qu'on a, aujourd'hui, il faut savoir que le domaine de la cybersécurité emploie énormément et à tout niveau, que ce soit ces fameux bac plus 1, les bac plus 3 ou les bac plus 5. Vous allez retrouver les bac plus 5 qui vont être les ingénieurs, qui vont être capables de définir les stratégies, les architectures et ainsi de suite. Vous allez avoir le bac plus 3 qui, lui, va commencer à mettre en œuvre et va être capable de comprendre ce que l'architecte ou l'ingénieur a défini. Et puis vous allez avoir, excusez-moi du terme, mais la petite main, le super technicien à bac plus 1, oui, qui est capable de mettre en place des architectures réseau, de comprendre.
Et dont on a besoin de toute façon.
Et on a absolument besoin de ce type de formation. Pour vous donner deux chiffres, 24 places, 390 demandes.
Ah oui.
Voilà. Aujourd'hui, on a fait une première sélection sur cette formation-là. Et aujourd'hui, hormis sur Parcoursup, nous ne faisons pas de prospection sur ces formations. Nous allons commencer. C'est des choses qui se mettent en place au fur et à mesure de la création du campus. Il faut rappeler qu'on a tout juste un an.
Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, justement, parce que vous êtes tout jeune, quels sont les besoins dont vous voudriez exprimer?
Les besoins, ils sont alors nombreux, multiples, diversifiés, très très clairement deux axes. Des besoins en ce que j'appelle le temps homme, c'est-à-dire du professionnel, du monde de la sécurité par rapport aux différents axes qu'on décrivait, pour venir avec nos élèves, partager du temps, partager de l'expérience et ainsi de suite, venir enseigner, venir profiter, faire partie de l'expérience. Enseigner, je sais pas si on peut employer le terme enseigner, mais partager de la connaissance et de la compétence. Ça, c'est le premier besoin qui est plutôt humain. Et le deuxième besoin, il est bassement matériel.
Oui.
Plus on a de matériel, plus on est capable de mettre en situation nos élèves. Aujourd'hui, si vous prenez des systèmes de réseau et de cybersécurité, typiquement, un besoin, pour donner un exemple, on avait besoin d'une baie informatique et au détour d'une discussion, j'ai un partenaire qui me dit « Mais Jérôme, ta baie, dans 15 jours, elle est chez toi. » Et voilà, une baie informatique est arrivée et les élèves vont pouvoir jouer, et j'en le bon terme, jouer avec. Hein. Aujourd'hui, aucun matériel chez nous n'est sous clé. C'est fait pour que les élèves puissent pratiquer avec leurs enseignants, leurs intervenants et le monde professionnel, et pratiquer tout seul. Vous voyez, cette semaine, on est en vacances. Mmh. Alors, on est en vacances, mais nous, on n'est pas en vacances parce qu'on est tout le temps ouvert. Et il y a, sur les trois formations, il y en a deux qui ont cours. C'est plus pratique pour les intervenants extérieurs de poser des congés, de venir faire cours pendant ces semaines-là. Mais la troisième formation qui, elle, n'avait pas cours, sur les 24 élèves, j'en avais 7 hier qui étaient au campus. Ils sont venus travailler entre eux.
Voilà, parce
ils n'avaient pas cours, ils étaient en vacances, mais ils sont venus travailler. Pourquoi ? Parce qu'on leur met à disposition du matériel. Je pense qu'ils mesurent la chance qu'ils ont d'avoir autant de matériel. Mais ce matériel, quand vous me demandiez ce qu'on avait besoin, le dernier axe, c'est du financement, très clairement, parce que ce que je peux pas récupérer à droite, à gauche, il faut l'acheter. Alors, il faut l'acheter, on a des partenariats, le monde de l'éducation a des bonnes remises, mais très clairement, hein, on reste une on reste CYCRJ Paris Université, en porteur financier. Bien sûr qu'il y a des fonds publics, des fonds privés, bien sûr, mais moins on en dépense, mieux je me porte.
Hein,
très clairement, j'ai des comptes à rendre à tous nos fondateurs et tous nos porteurs. Mais voilà, donc ça, c'est la partie financière. Mais ce qui est surtout important et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on fait ça pour les jeunes et qu'on fait ça pour qu'ils aient un emploi. Et on s'inscrit vraiment dans cette politique du retour à l'emploi.
Oui, parce que ces métiers que vous allez développer sont très porteurs.
Alors très clairement, je ne me positionne, enfin en tout cas, je ne positionne le campus que sur des métiers où il y a de l'emploi et où il y a des besoins. On a fait récemment, alors c'était un projet test, un démonstrateur, on peut appeler ça comme ça, au niveau des métiers de la sécurité-sûreté. Donc on a référencé toutes les formations en Ile-de-France par rapport à ça. On a cartographié les formations, les établissements, les niveaux de formation, les volumes de formation, et par rapport à ça, on a superposé les bassins d'emploi de ces métiers-là. Et du coup, on a pu détecter là où il y avait trop. Alors, on n'a pas trop dans les métiers de la sûreté et sécurité. Aujourd'hui, on n'a pas trop de formation. On en manque plutôt. Et donc, on a détecté là où il en manquait. Donc, on a pu, avec notamment la région Île-de-France et la région académique, avoir et définir un plan stratégique de où est-ce qu'on va ouvrir des formations autour de des métiers de sûreté et sécurité. Pour dire quelques mots sur les métiers de sûreté et sécurité, c'est un diplôme qui s'appelle le TFP, titre à formation professionnelle, mais d'agent de prévention et sécurité. Un agent de prévention et sécurité, aujourd'hui, c'est 175 heures d'enseignement, c'est un diplôme qui est défini par la branche et qui est très très encadré par rapport à ça. On peut pas avoir plus de 12 élèves par formation, il faut être de nationalité française ou depuis plus de 5 ans sur le territoire français, il faut avoir plus de 18 ans, il faut avoir le B1, c'est-à-dire un certain niveau en français pour être capable d'échanger avec les gens, de faire des rapports, de comprendre et ainsi de suite. Et un point qui est non négligeable, c'est qu'il faut avoir un casier judiciaire complètement vierge.
Oui,
ce que j'appelle par complètement vierge, c'est que si vous avez été cité dans une main courante, vous ne pouvez pas rentrer en formation dans le métier de la sécurité aujourd'hui.
Ah oui.
Donc voilà, la formation...
Oui, c'est très très rigoureux.
C'est très rigoureux, très réglementé, et je pense que le métier de la sécurité privée, enfin physique, avait besoin de se structurer et ainsi de suite, et depuis 10-15 ans, opère cette transformation et c'est énormément réglementé et ainsi de suite. Et aujourd'hui, tous les agents que vous voyez sont assermentés et ainsi de suite et ils ont vraiment eu des formations. Aujourd'hui, typiquement, on parle de palpation, on parle de risque terroriste, on parle de gestion de crise, mais dans cette formation, vous pouvez avoir, il y a deux jours, complètement sur désamorcer un conflit.
Mm-hmm.
On commence par discuter, commence par faire baisser la tension, pression, et puis arriver à trouver une solution.
Mm-hmm. Oui, tout voilà. Ça s'apprend.
Ça s'apprend exactement, 175 heures d'enseignement.
Jérôme Morge, leur tourne, je voudrais... Alors, vous nous avez cité les deux dates en ligne de MIR, 2023 pour la Coupe du Monde de rugby, 2024 pour les Jeux Olympiques, et vous avez une actualité annoncée là au mois de novembre.
Ah oui,
je vous laisse en parler.
Au mois de novembre, nous serons présents au salon ONICEP. Donc, les campus ont été invités par le salon ONICEP. Donc sur les dates de 26, 27 et 28 novembre, les campus qui ont souhaité auront des stands. Donc nous serons au salon de l'ONICEP. N'hésitez pas à venir nous voir. On y sera. Bah, en fait, dans
pour
l'esprit
prendre tous
du
les
campus,
renseignements pour intégrer
voilà,
le campus,
avec nos formations,
ça
toutes les formations du réseau, hein, bien sûr, de l'Île-de-France, et puis du matériel pour montrer qu'on forme par le matériel. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et puis sinon, n'hésitez pas à venir au campus.
Oui.
C'est un lieu ouvert, c'est un lieu qui est là pour parler de ces thèmes de la sécurité, échanger avec tout le monde, hein, du grand
c'est
public
ça, c'est
aux professionnels,
et...
en passant par les parents, les enfants, enfin les futurs élèves, le monde de l'industrie, les institutions, le monde de formation. Voilà, tout le monde, tous ceux qui peuvent se sentir concernés, tous ceux qui pensent pouvoir nous aider à former mieux nos jeunes, n'hésitez pas à venir nous rencontrer.
Le sujet est très vaste, je vous propose de revenir ultérieurement parce que voilà, je pense qu'on n'a pas tout, enfin vous en avez dit le maximum. Mais
oui, pour moi c'est ma première émission de radio, je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité et vraiment c'est avec un grand plaisir.
Je serais ravie que vous reveniez, oui. Donc voilà, moi je rappelle l'événement, le prochain événement, 26-27 novembre à Paris, Expo Porte de Versailles, l'ONICEP, où vous accueillerez toutes les personnes qui ont envie d'avoir des renseignements sur ce nouveau campus. Merci beaucoup Jérôme Morge, c'est un formidable écosystème, hein. Merci et pour cette présentation passionnante.
Merci à vous.
Et à très bientôt, j'espère.
Merci, au revoir.
Restez avec nous, on marque une petite pause avant de poursuivre l'émission avec Arnaud Gallet, mon troisième invité.
Take me home tonight. Oh, down beside you.
IDFM 98.fr, c'est l'économie en direct avec aujourd'hui mes deux invités, Jérôme Morge, directeur opérationnel du campus des métiers de qualification à Argenteuil, j'ai peut-être pas tout bien dit, mais et puis Arnaud Gallet, donc Arnaud qui est cofondateur du collectif Prévenir et Protéger, membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles face aux enfants. Arnaud Gallet, juste avant de vous donner la parole pour votre collectif, je crois que vous vouliez réagir par rapport aux propos de Jérôme.
Oui, tout à fait, parce que je suis également donc directeur général d'une association dans la protection de l'enfance. Et puis, ce qui faisait écho dans ce que Jérôme disait, c'est le fort besoin qu'on a, nous, au niveau du secteur associatif au sens large, hein, pas uniquement la protection de l'enfance. J'ai une pensée notamment là en cette période hivernale pour les centres d'hébergement et autres, où on sait que la dimension des métiers de la sécurité, c'est hyper compliqué d'en avoir et d'avoir des gens en plus qui sont formés, qui comprennent aussi tout ce qui est en lien avec l'accueil, etc. Et je trouve ça très intéressant et on a vraiment, je pense, notre pierre à mettre à l'édifice au niveau du secteur associatif. Et c'est avec plaisir que j'irai au campus parce que j'ai été vraiment très intéressé par cette approche. Et par ailleurs, ce que j'entendais également, et c'est essentiel à mon sens, c'est ce type d'initiative qui permet aussi de valoriser certains métiers. Et on voit bien que par moments, c'est compliqué, en fait, quand on recrute des agents d'accueil, des agents de sécurité, de les maintenir aussi dans l'emploi parce qu'ils se sentent aussi très seuls. Et je trouve que cette valorisation qu'on peut faire à travers un partage d'expérience dans le cadre du campus, je trouve ça vraiment formidable, et que c'est ce type d'initiative, je trouve que ça fait vivre des ressources humaines d'un point de vue positif.
Absolument.
Et il faut vraiment qu'on parvienne à tout ce que soit, effectivement, parce qu'on a tendance des fois un peu, je ne vais pas dire à opposer, mais dire là il y a les entreprises, puis il y a les petites associations.
Oui, chacun dans son coin.
Moi je suis à la tête d'une association qui compte 900 salariés, je me dis, je me sens pas loin d'un chef d'entreprise, si je peux
bien
dire les choses de cette manière-là.
Oui.
Donc bien entendu, je suis assez, tout à fait sensible.
Voilà.
J'ai écouté avec une grande, grande attention.
Bon, bah, écoutez,
merci à vous.
C'était le but.
Merci.
Arnaud Gallet, je vous laisse vous présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Donc, je suis le cofondateur d'un collectif Prévenir et Protéger, que j'ai cofondé avec Rada Atem, qui est la fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis.
Oui, que nous avons reçu la semaine dernière. Oui.
Voilà. Et donc, on a créé ce beau collectif qui réunit plusieurs associations. Pour résumer notre action, c'est des actions, on va dire, de plaidoyer, c'est-à-dire qu'on lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux enfants. Pourquoi ? Parce que malheureusement, en France, en 2021, on se rend compte que les chiffres effroyables on a toujours l'impression d'être sidéré dès qu'on les découvre, mais en fait, c'est toujours les mêmes, sont les mêmes sur les violences faites aux femmes, violences faites aux enfants. Pour donner un chiffre là aux auditeurs, on a aujourd'hui en France 165 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Ça correspond à un enfant toutes les 3 minutes. Voilà, je le dis comme ça parce que souvent quand on dit les chiffres, on a l'impression que c'est loin de nous. Non, aujourd'hui en France, on a un enfant toutes les 3 minutes qui est victime de violences sexuelles, d'où notre nécessité pour nous d'agir et d'impulser. On y tient une culture de la protection, pas quelque chose qui culpabilise en disant vous comprenez la société, on est tous coupables de quelque... Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on déconstruise notre manière de faire et qu'on protège une bonne fois pour toutes les enfants, qu'on puisse les entendre, qu'on puisse entendre également donc les femmes, enfin toutes les personnes qui sont vulnérables dans la société, avec en tout état de cause des chiffres qui démontrent qu'il y a bien cette réalité qui existe.
Oui, moi j'ai pu lire un sondage récent Ipsos. Un Français sur 10 affirme avoir été victime d'inceste, un phénomène qui forcément impacte la société dans son ensemble, hein, parce que l'arme de destruction massive, c'est le silence érigé par les agresseurs et que l'on dénombre, comme vous l'avez dit, des milliers d'enfants abîmés avec de graves dégâts collatéraux.
J'ai moi-même été victime d'un double inceste. Hein. C'est important, ça, je ne l'ai pas présenté de cette manière-là. Je le présente, je viens rarement comme ça, mais c'est vrai que là, ça a été au cœur du sujet, d'un double inceste. Et puis, c'est de se rendre compte, malheureusement, quand on partage ce type de témoignage, que ces violences-là sont partout. Si vous savez le nombre de personnes moi qui me contactent aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou autres pour partager aussi cette expérience, on parle quand même aujourd'hui pareil de 3 enfants par classe. On est dans quelque chose qui est, je pense, qui nous terrorise
inimaginable.
Donc le vrai problème sur cette question-là, c'est que je pense que on s'imagine en fait cette figure du monstre, c'est-à-dire que l'inceste, c'est forcément quelqu'un à côté de nous. Oui, c'est 80% des violences sexuelles faites aux enfants, c'est dans le milieu familial ou un proche tout du moins. Et donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, il s'agit pas d'avoir peur de tout le monde, mais il s'agit au bout d'un moment d'être en capacité d'entendre les enfants, d'entendre également la parole des personnes qui souhaitent protéger les enfants, d'où le premier avis d'ailleurs de la commission inceste sur les mères protectrices. C'est important parce que ce sont des mères qu'on ne croit bien souvent pas, je vais me conjuguer au présent,
oui,
en se disant parce que ça peut être aussi des moments où il y a par exemple des séparations dans le couple et on peut avoir un enfant qui vient dire évidemment papa a mis ma main dans la culotte, etc. Ça, ce qui existe, bien souvent la première réaction c'est de dire à un enfant on ne te croit pas quand ça dit quand des choses comme ça sont, c'est impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un principe de précaution qui doit être pris, qui doit être appliqué, qui doit venir protéger les enfants, en se disant qu'évidemment un enfant d'ailleurs, et dans 99% des cas, c'est ce que démontre d'ailleurs cette réalité-là malheureusement, dans 99% des cas, un enfant dit bien la vérité.
Oui,
et ça,
oui,
c'est un message important à porter. D'où effectivement notre collectif qui souhaite qu'on construise ensemble, qu'on vienne pas uniquement culpabiliser, parce que je trouve que c'est compliqué pour les personnes, parce que moi, le message que je souhaite passer aujourd'hui auprès des auditeurs, si on a des psychologues, des travailleurs sociaux, et puis toute la société,
je dirais, touchée
par ça, exactement, des victimes. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de culpabilité qu'on ressent tous en se disant, mince, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas vu.
Oui.
Et je pense que c'est plus compliqué que ça. Il s'agit aujourd'hui de se dire, on vous croit. Il s'agit aujourd'hui d'agir, on parle beaucoup de libérer la parole, je pense qu'il faut libérer l'écoute. Il faut agir. Et c'est tout ça qui nous anime aujourd'hui pour pouvoir changer aussi la société et protéger les enfants.
J'ai annoncé en préambule que vous étiez anthropologue. Moi, je voulais savoir quel est votre regard d'anthropologue face à ce fléau.
Mon regard d'anthropologue, c'est que on est dans une culture aujourd'hui, qui est avec une domination masculine. C'est-à-dire qu'on est bien dans ce schéma-là et que, alors ça veut pas dire, parce que tout de suite, c'est vrai, quand on dit ça, il y a certains qui peuvent se dire, oui, mais alors ça signifie qu'aujourd'hui tous les hommes doivent être vus sur un regard extérieur. Moi-même, un homme, c'est pas la question. La question, c'est de se dire qu'on est sur un rapport de domination qui fait qu'au bout d'un moment, les plus vulnérables dans ce rapport de domination et qui sont établis, à savoir les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap, 4 fois plus de victimes sont des personnes en situation de handicap. Toutes ces personnes-là, en fait, il faut qu'on arrive à mieux comprendre la société pour pouvoir agir. Mmh. Et il est un état de fait qu'on vit dans une société patriarcale sur laquelle on voit bien qu'il y a pu avoir une manière de penser qui peut aussi écraser d'une certaine manière l'autre et surtout donner une place particulière aux hommes notamment.
Oui, parce que dans ce phénomène, ce sont les hommes qui sont en majorité des agresseurs.
Majoritaire, mais alors après on voit bien, je le disais ce matin avant de venir, on voit qu'il y a une directrice d'école qui a été visée là sur des questions de violence sexuelle, et il est vrai, il faut le dire, il y a des femmes effectivement qui violent des enfants,
c'est des choses,
mais après c'est un pourcentage infime, mais ça existe aussi, des mères également, alors mais après les proportions sont quand même nettement importante chez les hommes à, on va dire, 90-95%. Donc et après c'est vrai qu'il faut ouvrir les yeux sur l'ensemble, il faut pas stigmatiser plus que ça, néanmoins faut prendre en compte cette réalité.
Alors aujourd'hui, dans les thèmes que vous souhaitiez aborder, il y a la Journée internationale des droits de l'enfant qui aura lieu le 20 novembre. Je rappelle que c'est en 1989 que l'ONU a adopté à l'unanimité la Convention relative aux droits de l'enfant, reconnue aujourd'hui comme un texte fondateur.
Tout à fait. Pour nous, c'est important, c'est-à-dire que le 20 novembre, de célébrer cette journée-là, parce que c'est aussi de rappeler au niveau des violences sexuelles que l'article 19 demande aux États signataires comme la France de protéger les enfants en matière de violence, toute forme de violence d'ailleurs, c'est ce que dit l'article 19. Et aujourd'hui, on voit bien, au regard d'ailleurs de l'actualité, notamment si on pense au rapport qui a été remis par la CIAS, le rapport Sauvé, que pour moi, il y a une obligation de résultat et qu'on peut pas se satisfaire, quoi qu'il en soit, d'un discours qui vise à dire, par exemple, évidemment, que certaines institutions, comme l'Église, mais comme d'autres aussi, parce que je pense qu'il faut aussi que chacun prenne...
Oui, faut pas stigmatiser que l'Église.
Mais on peut pas se sentir, on peut pas être au-dessus des lois. C'est-à-dire qu'on est dans un État républicain, et à un moment donné, il faut appliquer la loi. Il faut que chaque institution puisse dire, je peux apporter une sécurité, justement, pour revenir au thème d'ailleurs qu'on abordait un peu avant, pour les enfants qui sont accueillis. Et ça, c'est essentiel. Il faut vraiment passer ce message-là, sans stigmatiser chacun, sans tomber après dans quelque chose qui est de l'ordre de justement dénoncer les religions, etc., comme on peut le faire à d'autres moments, parce qu'on sait bien qu'on est dans une période de pré-campagne. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire qu'il faut, finalement, comme des enfants sont confiés à un endroit, il faut qu'on soit en capacité à tout moment de dire, bah, tiens, si ça se passe, on sait qu'il y a des violences institutionnelles, on sait qu'il y a des viols, on sait qu'il y a plein d'audiences, le harcèlement scolaire, différentes choses. Finalement, qu'est-ce qu'on met en place? C'est pas uniquement dans le discours, c'est pas bien de violer les enfants, c'est pas bien d'harceler, etc. C'est ok,
oui,
très bien,
faut agir.
Faut agir. Qu'est-ce qu'on met en place exactement? Donc c'est pour ça qu'encore une fois, la formation, par exemple, ça peut être un angle, mais il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir des actions. Moi, je me pose même des questions. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, dirigeant donc d'associations. Je me dis, après tout, pourquoi est-ce que j'ai pas un document dans mes établissements, dans mes services, qui vient dire non, voilà toutes les actions que je mets en place sur face à toutes les violences qui existent par rapport aux enfants. Et c'est vrai que rien nous contraint aujourd'hui parce qu'on est dans un idéal absolu de l'institution.
Il y a un autre événement dont vous voulez nous parler, c'est une journée thématique le 18 novembre, dont le titre est « Parlons d'inceste à nos enfants ». Et je vous laisse nous le présenter.
Tout à fait. Donc c'est un événement qui aura lieu à la mairie du 10e arrondissement entre 14 et 17 heures. Alors c'est un événement qui est très actuel puisque vous le disiez, je participe également à la commission inceste, enfin sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Commission qui a été mise en place en mars dernier suite notamment au mouvement auquel j'ai participé, à savoir le mouvement MeToo Inceste.
Oui.
Alors, il va y avoir deux tables rondes qui vont être mises en place. La première, et qui est en lien directement avec le nom de notre collectif, Prévenir, Protéger, Dépister. Donc, en se disant, on va faire intervenir des professionnels, on va avoir des échanges avec la salle également. Il y a quand même 200 places qui sont, qui on peut occuper jusqu'à 200 places. Et donc, de venir faire partager aussi des expériences, hein, on en parlait également tout à l'heure, c'est extrêmement important, c'est-à-dire se dire qu'il y a des choses qui existent aussi aujourd'hui. On se dit souvent que il n'existe rien, on a l'impression, je suis désolé, il existe des choses, il faut les partager, peut-être pas suffisamment, mais quand même, il y a des choses qui existent, donc on souhaite être positif aussi dans cette dimension, et ça c'est essentiel. On voit bien, d'ailleurs, une personne comme Arada Atem qui est venue donc la semaine dernière, c'est une personne qui, je pense, montre aussi qu'il y a beaucoup de choses qui existent, et de belles choses aussi, et c'est important de le dire. Et puis, la deuxième table ronde sera consacrée directement au droit de l'enfant à l'épreuve de l'inceste. Il y a cette question que j'évoquais préalablement, à savoir de ce fameux article 19 au niveau de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et là, on va avoir le juge Durand qui va être présent, donc qu'on entend beaucoup parler, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, parce qu'il est beaucoup sur les plateaux, et on est bien content de l'avoir en tant que co-président de la commission inceste, en tant que juge. Parce que là aussi, il y a quelque chose, je pense, qui est malheureusement, il ne s'agit pas de remettre en question les juges, la justice. Non, il s'agit vraiment d'impulser cette culture-là, et je trouve qu'un juge puisse effectivement incarner cette déconstruction gérée de la pensée, je trouve ça essentiel, je trouve ça beau moi-même comme geste, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de positif. Donc cette action, elle veut être positive, je le souhaite. Vous êtes donc psychologue, travailleurs sociaux, des personnes gérées de la société civile, comme on les appelle aujourd'hui, peu importe, on a toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, et on les... Je dirais tous, c'est un sujet tabou, mais on en parle finalement beaucoup. Il s'agit aujourd'hui vraiment d'agir. On peut tous agir. Cette action s'appelle donc parler d'inceste à nos enfants. Et puis, on va finir, parce que là aussi, on s'est dit, soit on reste sur le côté un peu, comment est-ce qu'on agit? Et puis, on s'est dit qu'on allait aussi en profiter, puisque ça fait longtemps, on était dans les périodes de confinement, etc., faire un petit temps aussi musical.
Oui.
Avec des artistes qui nous ont rejoints, j'ai une pensée là pour Mylan notamment, qui a l'initiative, donc qui est une artiste, qui a fait également un livre, Le Loup, qui parle d'inceste aux enfants, qui a fait également une chanson, et elle sera là avec d'autres artistes qui seront présents. Avec Ina Moja, avec Jeanne Charal, avec Oxmo Puccino, avec Majo, avec Aurélie Saada, avec Kiyun. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est de se dire comment on peut parler de choses difficiles. Et en même temps, on n'est pas obligé, si je peux le dire comme ça aux auditeurs, de se tirer systématiquement une balle dans le pied. Il faut qu'on avance positivement, il faut qu'on fasse les constats, il faut qu'on provoque des temps où réellement la parole peut aussi se libérer, mais dans le sens d'un partage d'expérience. Je vous le dis, moi j'ai plein de témoignages systématiquement de personnes qui... j'ai eu dernièrement, je suis pas une assistante familiale, par exemple, vous voyez, de l'aide sociale à l'enfance, qui m'a envoyé un message sur Facebook, ou je sais plus, peu importe, et qui me disait qu'elle avait elle-même... bah, accueilli des enfants, notamment de l'aide sociale à l'enfance, qui avait été victime par une autre famille d'accueil et elle-même avait agi. Donc, oui. Ce qui montre bien que toutes les familles d'accueil ne sont pas maltraitantes, heureusement, et qu'il y a familles d'accueil qui agissent aussi pour lutter aussi contre ça. Et je pense que il y a aussi ce regard positif qu'on doit avoir sur la société. Moi, j'en suis convaincu, et c'est si on s'investit notamment au sein du collectif de la commission Inceste, c'est aussi parce que on souhaite une société meilleure et parce qu'on croit en les valeurs de la République, et ça c'est essentiel de le rappeler. On n'est pas dans quelque chose, je dirais, de révolutionnaire au sens d'un changement majeur, faut tout remettre en question. Au contraire, on souhaite effectivement, on sait que la République, moi je le dis souvent dans mon histoire, vous voyez, je vous le disais, j'ai été victime d'un double inceste. J'ai dû quitter ma famille à l'âge de 18-19 ans. Je dois tout à la République, je le dis. J'ai pu faire mes études, je suis diplômé de l'école des études en sciences sociales, etc. Enfin, bref, tout ce que j'ai pu faire, j'ai été maître d'internat à Éragny-sur-Oise, donc dans le Val-d'Oise. Je connais assez bien, je suis quelqu'un qui a grandi en plus dans le Val-d'Oise. Je suis né à Enghien-les-Bains, quand même.
Ah oui,
voilà,
très bien,
à dire.
Très bien. À la clinique Girardin,
quand on m'a invité, exactement.
Ah oui.
Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vraiment, c'est important de le dire au niveau des auditeurs. Ne culpabilisez pas par rapport à ça. Tous ensemble, l'idée aussi de cette stratégie, c'est quoi? C'est de se dire, et on l'a bien vu avec le mouvement MeToo Inceste, c'est que jusqu'à présent, on disait les victimes sont isolées. Et ben, ce qui s'est passé en janvier 2021, oui. Et ce qui est essentiel, grâce à Camille Kouchner notamment,
oui,
et bien d'autres qui ont pris la parole, et ben, c'est de se dire que finalement, il y a des personnes qui sont co-victimes. Hein, co-victimes, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'un agresseur met en place toute une stratégie pour parvenir à ses fins. On est tous victimes des violences sexuelles. Si ça nous effraie tous, il n'y a pas uniquement les victimes comme moi et d'autres qui l'ont été, il y a toute la société, parce qu'au bout d'un moment, il y a un abus de confiance majeur par rapport à ça. Unissons nos forces, isolons les agresseurs, dans leur intérêt également, parce qu'un agresseur, finalement, qui a aujourd'hui, il y a beaucoup d'impunité sur ces questions-là. Si on arrive au bout d'un moment à punir les agresseurs à la hauteur des faits qu'ils commettent, on arrivera peut-être, c'est bien ce que disent certains d'ailleurs psy quand ils interviennent en prison notamment, et tous sont unanimes en disant que quand on a une personne qui est punie à la hauteur de ce qu'il fait, ça lui permet souvent de dire d'ailleurs de mieux comprendre ses actes et pouvoir même se confier sur quelque chose qu'il a pu vivre lui-même quand il était jeune et donc d'éviter la récidive. Le drame aujourd'hui, c'est qu'on a une telle impunité, on n'a que 1% des viols qui finissent aux assises, donc qui sont criminalisés. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. C'est ce sur quoi on veut agir. Et on a tous notre mot à dire sur la question.
Ce que je voudrais dire, ce qui me paraît important de dire, c'est que si des victimes nous écoutent, vous êtes l'exemple qui montre qu'il y a des chemins de guérison. Et que, voilà, c'est pas toujours... ne pas croire que on est à vie, enfin même
essentiel.
Si on reste marqué, on n'oublie pas, mais on peut arriver à vivre.
Vous avez je vous remercie vraiment, ouais, ça me touche ce que vous dites, parce que c'est vrai que notre message, il est pas non plus de se dire qu'il y a aucune solution de sortie. Moi, je pense bien au contraire. C'est-à-dire que vous avez raison de le dire. Il y a un effet traumatique qui fait que toute ma vie, j'irai jusqu'à ma dernière seconde,
c'est
sûrement,
sûr.
Je serai marqué là-dedans. Mais, vous voyez, j'ai une femme formidable, j'ai deux enfants formidables. Enfin, vous voyez, mais en me disant, au bout d'un moment, il faut quand même capitaliser, je dirais, pour la société. Il faut qu'on soit dans quelque chose au bout d'un moment et puis renvoyer cette force. Vous voyez, j'interviens donc aujourd'hui, on parle aussi dans votre émission donc forcément d'économie. Faut le rappeler, vous avez des personnes. L'un des dommages par un moment de certaines victimes, c'est d'être exclu au niveau de la société.
Ouais.
Bien souvent, on va traiter le travail là où on manque cruellement au bout d'un moment, de soins en France. On a des manques en matière de pédopsychiatrie, on a des manques en matière aussi d'accès aux soins pour aller voir des psychologues, différentes choses, enfin voilà.
Voilà, moi c'est pareil, je vais vous dire la même chose qu'à Jérôme, je crois qu'il faut que vous reveniez Arnaud, parce que
un grand plaisir.
Le sujet est tellement vaste et il y a tellement à dire que voilà, vous reviendrez parce que l'heure tourne. Je voudrais donc rappeler votre actualité, hein, le 18 novembre après-midi entre 14h et 17h à la mairie du 10e arrondissement, table ronde avec un concert derrière Mylan, Oxmo, Puccino.
Très
donc
bien.
Voilà, toutes les personnes qui souhaiteraient assister à cette conférence vont sur
Eventbrite, il y a une recherche à faire. Alors on va plus le publier parce qu'on l'a fait dans un premier temps parce que c'est vrai qu'on est limité avec le Covid systématiquement pour voilà.
Oui, oui.
Et donc je vais vous remettre également tous les liens peut-être si vous pouvez le communiquer je vous dis c'est gratuit, venez, ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueille en cette belle mairie du 10e arrondissement, avec notamment la maire qui sera présente d'ailleurs, Alexandra Cordebar, Dominique Versini, ancienne défenseur des enfants et adjointe à Anne Hidalgo en charge de la protection de l'enfance et des droits de l'enfant. Enfin voilà, ça sera un moment qu'on souhaite
un moment fort
pour les droits de l'enfant. Agissons tous et toutes.
Merci beaucoup Arnaud Gallet pour votre témoignage et puis votre engagement. Merci beaucoup. Avant juste de nous quitter, un petit mot de conclusion, Jérôme Morge.
Je suis très touché par ce que je viens d'entendre, en tout cas. Enfin, c'est vrai que je pense que je fais partie des gens qui sont pas conscients des chiffres et de l'ampleur qu'il peut y avoir. Et je pense que c'est important d'informer, de communiquer, de se réunir autour de ces thèmes-là. Donc, merci de m'avoir invité et merci de m'avoir invité en compagnie
avec Arnaud,
d'Arnaud.
Bah oui. Il y a une belle symbiose qui s'est créée. J'adore. Merci.
Merci à vous.
Arnaud Gallet, juste un petit mot de conclusion.
Mais écoutez, je vais dans le sens également de, je fais écho, je dirais, à ce que Jérôme disait préalablement. C'est-à-dire que moi aussi, je suis assez content d'en plus être venu parce que je trouve que de le ramener sur une thématique, je vous dis, proche aussi sur la question de l'économie, différentes choses, je trouve que tout ça, c'est lié, et je trouve ça essentiel. Donc, un grand merci. Et puis surtout, je dirais, dans cette période où on sait bien qu'on a eu tendance à être un peu, je dirais, morose, etc., on veut sortir de tout ça. Je pense qu'il faut qu'on aille de l'avant.
Ce qui est formidable, c'est que vous arrivez à en tirer quelque chose de positif.
Et je pense que le mieux de la formation, de l'entreprise, etc., aussi, et que c'est pour ça que moi je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire collectivement, on va retenir quelque chose de ça.
Enrichir le campus de vos idées.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup à chacun d'être venu à l'économie en direct et nous avoir fait partager ces éclairages. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci Philippe pour la technique. L'intégralité de l'émission sera bien sûr disponible sur le podcast du portail de la radio. Et moi je vous retrouve mardi prochain à 9h30 avec une nouvelle émission. Bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches.
IDFM 98 FM.